Jusqu'à ce matin, je n'étais vraiment pas inspiré pour faire un commentaire sur les paroles de Dieu que nous entendons dans la liturgie de ce matin. Mais la lecture d'un commentaire des versets de cet évangile par un protestant m'a donné un déclic. Et ensuite, tout s'est déroulé paisiblement. Nous sommes donc avec un évangile où il y a eu des morts violentes par des soldats ou par une tour qui s'écroule. Et la question que se posent les gens, c'est pourquoi eux et pas d'autres? Derrière cette situation se pose la très grande question du mal. On y revient assez souvent. Je vous inviterai bien à tenter de lire les quatre évangiles avec une idée derrière la tête, trouver l'origine du mal, ou plutôt l'explication de l'origine du mal, dans les paroles du Christ. Eh bien, vous n'en trouverez pas. En tout cas, moi, j'ai toujours pas trouvé. Et c'est fort intéressant. Parce que c'est ce que demandent ces gens-là. Pourquoi eux, ils sont morts? Pourquoi ils sont, en fin de compte, punis? Combien de fois j'entends des gens dire cette expression qui est devenue carrément caricaturale avec un super film comique, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Combien de fois j'entends des gens dire ça? Mais c'est blasphémé que de dire ça. C'est absolument pas une réflexion chrétienne. C'est sûrement quelque chose qui est en nous, qui est pleinement humain. Voilà, le religieux basique, le religieux qui dit qu'il y a un Dieu là-haut et qui nous surveille. Ben voilà, on vient avec cette question. J'ai dû faire quelque chose de mal et donc il me punit. À chaque fois que nous avons ce genre de réponse en nous, ou de réflexion, nous nous éloignons très 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 fortement de l'enseignement du Christ. Puisque le Christ dit bien, voilà, était-il de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Voyez, très clair, pas du tout. Ils sont pas pires pécheurs que les autres. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ça veut dire quoi? C'est que tu vas mourir avec une fausse conception de Dieu. Dieu n'est pas un punisseur, c'est pas le grand-père Fouettard. Dieu n'est que amour. Dieu ne s'amuse pas à nous filer des épreuves, comme on peut l'entendre. La question est de savoir, lorsque tu es dans une épreuve, qu'est-ce que tu en fais? Et comment tu peux trouver la présence de Dieu au cœur même d'une épreuve, d'une souffrance? Mais ça n'a rien à voir avec Dieu qui me punit. Enfin, c'est pas un pervers, c'est pas un sadique. Il faut être radical là-dessus. Parce que si tu dois t'avancer vers un Dieu qui va te punir, ben t'as pas du tout envie d'y aller. Tu te prépares pas à la rencontre. Dieu est amour. C'est Saint Jean qui nous le dit très clairement dans une de ses lettres. Voilà, c'est la plus grande définition de Dieu, si on peut en donner une. Et c'est toujours une définition qui nous échappe, car il est toujours plus que ce qu'on peut en dire de lui. Benoît XVI, dans sa très grande encyclique, « Dieu est amour », nous redit l'identité de Dieu. Encore une fois, si on peut donner une identité à Dieu. Tellement nous sommes petits vis-à-vis de sa grandeur. Bien évidemment, quand je fais réfléchir les jeunes ou même les adultes sur la question « qui me fait du mal ?» ou « à qui je fais du mal ?», c'est systématiquement des personnes avec qui j'ai un lien d'amour. C'est mes parents qui me font du mal et je fais du mal à mes parents, ou à mes frères et sœurs, à mes amis, ou à mon compagnon, ma compagne. En fin de compte, c'est parce que nous n'avons pas un amour pur que le mal se sert de cette impureté pour nous piéger et pour nous faire pervertir l'essence même de Dieu qui est amour. C'est comme ça que certains disent, il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que je n'arrive pas à vivre correctement une relation ajustée dans l'amour de l'autre. Il y a toujours un risque de je veux vampiriser l'autre, je veux mener sa vie, je veux lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Je veux qu'il vienne me servir moi, qu'il s'intéresse à moi. Je me sens trop laissé de côté, et ainsi de suite. Toute une panoplie de petits moyens qu'utilise le mal pour nous piéger et nous faire dévier de l'amour. Et donc il y a une décision radicale que nous invite le Christ deux fois de suite. Hein. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Est-ce que je suis prêt à me convertir, c'est-à-dire à repérer un amour différent, à avoir un regard différent sur l'identité même de Dieu? Voilà le défi de notre chemin de carême. Je dois épurer tout ce qu'il y a de mauvais sur la représentation, les représentations que je peux avoir de Dieu. Ensuite arrive la parabole du figuier. Un figuier... Bon, logiquement, ça ne devrait pas être dans une vigne, mais il est quand même dans une vigne. Tiens, peut-être que j'ai à être placé quelque part où je n'aurais pas pensé. Là aussi, j'entends des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas né à la bonne époque, je ne suis pas né au bon endroit, pas dans la bonne famille. » Enfin, on se trouve toujours des bonnes excuses pour dire « c'est pas ici que je vais faire, donc je ne peux rien faire de bien. » C'est faux. Même ce figuier qui est dans la vigne a quelque chose à faire. D'abord, il donne de l'ombre. Ensuite, il peut porter des fruits. Jusqu'à maintenant, il est stérile. C'est évident que si tu as une mauvaise conception de la foi de Dieu, enfin de la foi en Dieu, excusez-moi, tu peux pas porter de fruits. Ou ce sera tes petits fruits à toi, mais qui vont pas aller bien loin, et tu vas vite t'épuiser. Nous avons à être des conducteurs de la sève de Dieu pour porter des fruits selon ce qu'il avait prévu pour nous. Alors c'est fort intéressant que le jardinier dit, puisqu'il ne donne toujours pas, je ne donne toujours pas de fruits, alors le jardinier, qui est le Christ, il dit « je vais m'en occuper ». Et certainement l'année prochaine il va donner des fruits. Et comment va-t-il s'en occuper? En mettant du fumier. Voilà, du fumier, c'est pas terrible. C'est ce qu'il y a de qui sent pas bon, c'est ce qui nous sert à rien, c'est ce qu'on va mettre au loin. On va essayer de le faire disparaître parce que franchement, ça va pas. Le Seigneur Jésus vient se servir de ce qu'il y a de mauvais en moi pour le transformer en terreau, en engrais, en élément nourrissant, pour que je puisse ensuite porter des fruits. Et du coup, ça me demande une chose fondamentale, est-ce que je suis prêt à me laisser faire par le Christ? Est-ce que j'accepte qu'il prenne soin de moi? Mais à partir de mon fumier, c'est-à-dire peut-être à partir soit de mes travers, soit de mes défauts, soit aussi des épreuves que j'ai pu vivre. Qui, mieux qu'un ancien dépendant d'alcool, peut-il aider un alcoolique? Pourquoi faisons-nous des groupes de personnes qui ont perdu un enfant, de personnes qui sont veufs ou veuves, et ainsi de suite? C'est parce que ceux qui ont déjà traversé l'épreuve, qui l'ont assumé, qui ont fait face, qui se sont relevés, alors à ce moment-là, ils peuvent porter des fruits. Et ils peuvent être des signes pour les autres. L'épreuve que je passe aujourd'hui peut être quelque chose qui va me permettre d'être porteur de fruits, porteur d'amour de Dieu pour ceux que je vais rencontrer ensuite sur ma route. Il y a aussi cette lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il nous évoque toute l'histoire du peuple de Dieu, surtout le peuple hébreu dans la sortie d'Égypte, qui est pris sous la nuée de Dieu. Voilà, ils étaient sous la nuée, ils étaient sous l'amour de Dieu. Et il évoque par deux fois que c'est la question du baptême. Ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée. Puis dans la mer. La mer, c'est le lieu de la mort. Il y a des choses auxquelles je dois mourir pour être vraiment à la vie. Ils se sont désaltérés à l'eau du rocher et il nous dit très clairement, ce rocher, c'était le Christ. Mais ils n'ont pas compris. Et peut-être qu'on peut passer toute notre vie de baptisé sans comprendre ce qu'est le baptême. Nous sommes, j'ai envie de dire, les chouchous du Christ. Chacun de nous. Chacun peut être le chouchou. En général, le chouchou, c'est quelqu'un qui est mieux que les autres. Eh bien, aux yeux du Christ, nous sommes tous mieux que les autres. C'est-à-dire que nous sommes tous vraiment super. Est-ce que je suis capable de me nourrir de cet amour du Christ pour pouvoir le diffuser autour de moi joyeusement? Et quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Eh bien, c'est le livre de l'Exode qui nous le dit. Puisque là aussi, il nous est donné le nom même de Dieu. C'est le récit du buisson ardent. Moïse se déplace, il voit un feu qui ne s'éteint pas, et là il entend Dieu qui lui parle, et qui va lui donner une mission. Mais avant, Moïse il discute fort, il n'a pas du tout envie d'y aller. Ça ne l'intéresse pas d'être le messager de Dieu, c'est étonnant. Est-ce que j'ai envie d'être le messager de Dieu? Et alors il va lui dire, mais qui es-tu? Et la réponse de Dieu est extraordinaire. Toute la vie, chaque jour, il faut grandement la méditer. Je suis celui qui est. C'est tout. Je suis celui qui est. Tu ne peux vivre Dieu que maintenant. Combien de fois on espère arriver à Dieu? Ah, vivement que je sois arrivé. Mais tu ne seras jamais arrivé. Dieu n'est pas au bout du chemin. Le Christ est le chemin. Du moment que je suis en chemin, je suis avec le Christ. Je n'ai que aujourd'hui pour vivre Dieu. Je ne peux pas reporter à demain. C'est pour ça que Jésus nous dit, si vous ne faites pas comme eux, vous allez mourir comme lui, c'est-à-dire vous allez mourir avec plein de regrets. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment réaliser? Et qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser aujourd'hui? Quand on sait que la très grande majorité des choses qui nous donnent vraiment une joie intense et immense, c'est d'arriver à exprimer de l'amour à quelqu'un et d'être en disponibilité pour recevoir l'amour d'une personne. C'est ça le chemin de Dieu. Il n'y a que ça. Si tu perds ton temps à regarder d'où vient le mal, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi, puis qui c'est qui est le coupable et tout ça, mais tu te perds. Or le Christ dit, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu aimes, il faut que ce soit aujourd'hui que tu honores ta dignité de fils ou de fille de Dieu. Soyons joyeusement en chemin vers Pâques, soyons déjà des ressuscités, nourris de son amour, qui est là de tout le temps. Bon chemin de carême.